7-9.
Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous, nous sommes le mardi 1er février. Bonjour Anaïs Feuga.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, la contre-attaque des familles, des résidents des EHPAD Orpea. Plusieurs d'entre elles s'apprêtent à porter plainte, elles dénoncent à haute voix les mauvais traitements subis par leurs proches alors que les dirigeants sont convoqués ce matin chez la ministre. Et justement à 7h50, Léa, votre invitée.
Eh bien c'est la ministre, justement avant de les recevoir à 9h15 ce matin, elle sera dans ce studio, Brigitte Bourguignon, la ministre chargée de l'autonomie. Que va-t-elle dire aux dirigeants d'Orpea ce matin? Quelles seront les mesures d'urgence? Que vont prendre les membres du gouvernement? On lui pose la question, elle sera avec nous à 7h50.
À tout à l'heure Léa. Et les autres titres, Anaïs?
Le Danemark, premier pays de l'Union Européenne à lever toutes ses restrictions ce matin malgré l'omniprésence du Covid. Nous serons à Copenhague. Dans ce journal aussi, les pensions revalorisées des femmes d'agriculteurs. Le PSG quitte la Coupe de France de football et le nouveau roman de Nicolas Mathieu, Connemara.
Et à 8h20 avec Léa, le grand entretien de la matinale avec pour invité aujourd'hui le président du groupe Les Républicains au Sénat, conseiller auprès de la candidate Valérie Pécresse à l'élection présidentielle, Bruno Retailleau. Donc vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
Après le séisme du livre Les Fossoyeurs, Orpea sommé de s'expliquer ce matin dans le bureau de la ministre. Mais ce tremblement de terre va-t-il faire vaciller le géant des EHPAD, désormais exposé à une action collective? Car la parole se libère. Sébastien Sabiron, vous avez recueilli les témoignages de plusieurs familles qui dénoncent à voix haute la rentabilité menée au détriment des personnes âgées.
En mars 2020, Monique, 88 ans, se remet d'une fracture du fémur. Sa fille, Isabelle Schwartz, se trouve une chambre dans un EHPAD Orpea des Hauts-de-Seine. 5 mois, un confinement et plusieurs chutes plus tard, Isabelle récupère sa mère en 1000 morceaux, dit-elle.
Ma mère a eu ses dents cassées, s'est ouvert la tête, une fracture de l'épaule, fracture du sternum, fracture des côtes droite et gauche et fracture des dorsaux lombaires.
Monique décédera fin septembre d'un Alzheimer accéléré selon sa fille par ce séjour traumatisant dans une maison de retraite à 6000 euros par mois.
J'avais déjà une culpabilité qui était temporisée par le fait que c'était dans une structure qui était censée être luxueuse, qui était censée être sécure. Mais lorsque j'ai vu ça, je me suis sentie trahie.
Autre histoire, autre EHPAD, cette fois en Seine-Saint-Denis, la mère de Sophie Mayer chute et passe 12 heures sur le sol de sa chambre, les deux jambes brisées. Elle décédera chez sa fille qui depuis tente d'obtenir des réponses. Orpea lui oppose des factures.
Ils nous ont réclamé le mois que maman avait passé à l'hôpital, les 3 mois que maman avait passé à la maison, et en plus ils nous ont facturé 1 mois et demi après son décès. Ils nous ont assigné au tribunal, ils nous ont bloqué nos comptes, ils m'ont saisi 14 000 euros et ils m'ont demandé des dommages et intérêts.
Sophie et Isabelle se joignent à l'action collective menée par l'avocate Sarah Saldman qui déposera plusieurs plaintes début mars contre Orpea.
Et une enquête préliminaire pour homicide involontaire avait déjà été ouverte en 2020 après le décès d'une résidente. Orpea dit ne pas en avoir connaissance. Le groupe conteste tout manquement et le dira sans doute directement à la ministre en charge des personnes âgées. Le directeur d'Orpea France et le nouveau PDG seront à 9h15 dans son bureau. Brigitte Bourguignon a donné le ton, elle veut les entendre sur, je cite, les accusations étayées et d'une gravité exceptionnelle. Maxence Lambrecq, le gouvernement ne veut surtout pas laisser ce dossier de côté.
Et si ce n'était que le début d'une libération de la parole, un nouveau MeToo qui lèverait le voile sur toutes les maltraitances dont les personnes âgées sont victimes dans les EHPAD. C'est ce à quoi s'attend, en tout cas, le gouvernement. Au ministère de la Santé arrivent chaque jour de nouveaux témoignages, des courriers qui vont nourrir tout à l'heure les questions de la ministre déléguée. Ils auront sûrement du mal à rester pendant 2 heures sur leurs éléments de langage, comme quoi ce n'est qu'une série de défaillances humaines, glisse un conseiller du ministère, qui n'a malheureusement pas encore reçu le bilan de la première inspection réalisée vendredi dernier dans le principal EHPAD cité dans le livre à Neuilly-sur-Seine. Après l'entretien, Brigitte Bourguignon devrait annoncer le lancement d'une enquête de l'inspection générale des affaires sociales qui concernera tout le groupe Orpea et prendra plusieurs mois. D'ici là, faut qu'Olivier Véran monte au créneau, lance un stratège de la Macronie. Il faut incarner ce combat. Attention, l'électorat âgé vote beaucoup. Pour l'instant, on a de la chance, nos adversaires ne se sont pas saisis du dossier. L'équipe du futur candidat planche sur une série de promesses, de quoi faire oublier l'abandon de la loi Grand Âge, transformée l'an dernier en mesure budgétaire.
Et je vous rappelle que la ministre Brigitte Bourguignon sera l'invitée d'Inter tout à l'heure à 7h50.
Il est 7h05, c'est le printemps avant l'heure au Danemark.
Le masque aux oubliettes, le pass sanitaire remisé dans un tiroir, les cafés rouvrent jusqu'à minuit, comme les salles de concert, les théâtres ou les boîtes de nuit. Le Danemark, en se
1er février pense avoir contrôlé le coronavirus et lève la plupart des restrictions, encouragées par un taux de vaccination élevé et des hospitalisations stables. Reportage de Marie-Pierre Véraud chez des Danois réjouis à Copenhague.
Leur première ministre, Mette Frederiksen, ne cachait pas son sourire quand elle a annoncé adieu aux restrictions, bienvenue à la vie telle que nous la connaissions avant le corona. Plus de masques dans les lieux publics, les cafés, plus de passes sanitaires à contrôler, se réjouit Adam, serveur dans un petit café du centre de Copenhague.
J'ai des plans pour le week-end. Je vais sortir, aller en discothèque, boire, me libérer. C'est méga cool. J'ai vraiment attendu ce moment.
Même l'opposition s'incline. Carsten Lauritsen est député du Parti libéral.
C'est vraiment bien. Le printemps arrive et l'on peut sentir que le corona est en perte de vitesse. C'est vrai, certains ont encore peur, mais la plupart aspirent juste à retrouver leur vie d'avant.
Certes, le monde économique s'inquiète d'une hausse des cas positifs qui pourrait peser sur l'activité. Les contaminations galopent, mais les hôpitaux restent sereins et le monde de la culture revit. C'est la fin des jauges dans les cinémas et théâtres, se félicite Nicolai Hübbe, le directeur du Ballet Royal du Danemark.
Notre public est affamé. Je pense que pour les ballets, l'opéra, le théâtre, il y a un énorme appétit. Et maintenant, on peut ouvrir sans aucune restriction, plus de barrières. On est juste libre.
Copenhague, Marie-Pierre Véraud, France Inter.
Voilà, on n'en est pas encore là en France où le nombre de personnes hospitalisées continue d'augmenter. Malgré tout, à partir de demain, le masque ne sera plus obligatoire en extérieur. Et puis les sportifs étrangers, même avec Sputnik ou Sinovac, pourront participer à une compétition en France, quel que soit leur vaccin, du moment que le schéma est complet et qu'ils font des tests. En ce 1er février, les tarifs de l'électricité augmentent. Le livret A passe à 1%, toujours en dessous de l'inflation. Mais la bonne nouvelle concerne le monde agricole et le beurre dans les épinards des conjoints d'exploitants, bien souvent des femmes qui ont travaillé toute leur vie à la ferme pour des pensions risibles. La loi Chassaigne revalorise leur retraite. Les premiers versements vont arriver dans les prochains jours, Kathleen Comte.
Quand elle était éleveuse de chèvres en Corrèze, Véronique Léon, 66 ans, ne cotisait pas. Comme souvent à l'époque, le chef d'exploitation, c'était son mari.
En fait, je me suis aperçue plus tard que je n'avais absolument pas cotisé pour la retraite. Ça a duré 8 ans.
Après un changement de carrière, Véronique retrouve le chemin de l'élevage, cette fois en Ardèche, comme conjointe collaboratrice. Puis, en 2011...
J'ai enfin eu le statut d'exploitante agricole à part entière, associée à 50% avec mon mari sur la ferme.
Aujourd'hui, la retraite agricole de Véronique s'élève à 970 euros par mois. Elle espère être éligible à la loi Chassaigne, un coup de pouce bienvenu selon elle, mais encore insuffisant.
À la fois c'est une reconnaissance, après il faudrait vraiment qu'il y ait une loi qui dise bah voilà, il n'y a pas de retraite en dessous du SMIC, ce serait l'idéal. Hein.
En attendant, la loi Chassaigne s'adresse aux conjoints des chefs d'exploitation et aux aides familiales. Le but, revaloriser les retraites agricoles les plus faibles. Christine Dupuis, directrice de la réglementation à la MSA, la Sécurité sociale agricole.
Une femme principalement conjointe d'exploitant ou aide familiale pendant sa carrière, qui perçoit aujourd'hui une petite retraite de base agricole de 555,50 €, va pouvoir avoir une retraite de base à plus de 713 €.
Environ 200 000 agriculteurs retraités sont concernés par cette majoration, dont 2/3 de femmes.
Des camions pour ramasser toutes les poubelles qui débordent à Marseille et bloquent les rues. Le maire mobilise dès ce matin des moyens privés en urgence face aux dizaines de feux de poubelles allumés par des habitants excédés et attisés par le Mistral. La grève de la collecte entamée le 18 janvier par FO est la troisième en 4 mois à Marseille. C'est la métropole normalement qui est en charge des éboueurs. Lui a enchaîné 177 contrats courts pendant près de 30 ans dans l'usine Cronenbourg d'Aubernay en Alsace. Des CDD et des contrats d'intérim, mais sans jamais être embauché. Jugement aujourd'hui des prud'hommes de Saverne sur le cas de Rabah Mekaoui, qui poursuit l'entreprise pour abus de contrat saisonnier, et pas seulement Émilie Pou.
C'est en 2019 que Rabah Mekaoui s'est laissé convaincre d'agir, lui qui jusqu'ici n'avait jamais rien dit ni rien demandé, lui qui n'avait jamais dénoncé non plus l'ambiance dans les ateliers. Son collègue Bernard Schwartz, également délégué CGT, se souvient très bien de ce jour-là.
Un jour, il est venu chez moi. Il me dit « Ouais, c'est pas normal. » Il me traite de sale bougnoule. Ils disent que l'arabe, il a qu'à aller ramasser les mégots. Et je comprends pas. Moi, ça fait depuis 86 que je suis là. J'ai jamais été embauché. Et il y en a un qui est venu longtemps après moi. Ils l'ont embauché à 57 ans. Quand il m'a dit ça, là, je me suis quelque peu énervé.
Les deux hommes se rendent donc chez l'avocate strasbourgeoise, maître Nicole Radius. Au début, elle travaille à requalifier les CDD en CDI. avant finalement d'attaquer le brasseur également pour discrimination à l'embauche.
Problème de discrimination qui visait M. Mekaoui, mais à mon sens, qui est systémique au sein de la production à Obernai de Cronenbourg. J'ai pu obtenir une partie du registre unique du personnel et j'ai pu constater que entre 2012 et 2020, aucun salarié avec un nom à consonance maghrébine avait été embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
De son côté, Cronenbourg se refuse pour l'instant à tout commentaire tant que le jugement n'a pas encore été rendu.
Émilie Pou, France Bleu, Alsace et le jugement et sera rendu tout à l'heure à 14h30.
Il est 7h11, Paris prend note, Anaïs, de l'expulsion de son ambassadeur au Mali.
Communiqué lapidaire du Quai d'Orsay après la décision brutale hier de la junte au pouvoir à Bamako. Expulsion vécue en France comme une humiliation selon le mot de la candidate LR Valérie Pécresse. Ce sera le thème de géopolitique tout à l'heure après le journal de 8h. Dans la crise ukrainienne, l'actualité c'est ce coup de fil crucial aujourd'hui entre les chefs de la diplomatie américaine et russe. Discussion de vive voix après la réunion tendue hier à l'ONU où la Russie a accusé Washington de créer l'hystérie. Les États-Unis et le Royaume-Uni se disent prêts à sanctionner financièrement les oligarques russes. Boris Johnson est à Kiev aujourd'hui. En sport, la chute est cruelle. Le PSG double tenant du titre éliminé de la Coupe de France de football dès les huitièmes de finale. Nice s'est imposé hier soir au tir au but après un nul 0 partout à la fin du temps et affrontera Marseille en quart de finale. 4 ans après son prix Goncourt, c'est toujours en Lorraine que Nicolas Mathieu situe l'histoire de son nouveau roman. Cette fois, Nancy et la France des petits pavillons pour nous raconter encore la dureté du monde du travail, l'adolescence et les transfuges de classe. Connemara, c'est le titre. Eh oui, cette chanson de Michel Sardou qu'on fredonne aussi bien dans les fêtes d'HEC que dans les mariages populaires, Ilana Mourioussef.
La France populaire, justement, sa colère, ses aspirations, sont au cœur de ce roman, de même que le temps qui passe. Au tournant de la quarantaine, Hélène n'a pas mal réussi, une école de commerce du top 10, un mari assorti à son diplôme, 2 enfants, une maison d'architecte, et pourtant, son incursion chez les CSP+, la laisse insatisfaite. Burnout, retour dans sa Lorraine natale, dont Christophe, lui, n'est jamais parti. Après une adolescence de presque champion de hockey sur glace, il vend de la nourriture pour chiens. Leur histoire, 20 ans après le lycée, c'est un peu comme s'ils voulaient s'offrir un supplément d'adolescence, oublier que leurs existences se déroulent désormais au rythme d'une novlangue managériale qui rend fou. Nicolas Mathieu excelle dans la description des scènes du quotidien et des corps. Il est d'une férocité salutaire quand il évoque les entreprises de conseil qui facturent du vide, mais il n'évite pas toujours les longueurs démonstratives, comme s'il ne faisait pas tout à fait confiance au lecteur.
Et puis juste un mot pour vous parler d'un autre livre dont qu'on avait évoqué ici, La trahison d'Anne Frank. L'éditeur néerlandais suspend l'impression du livre très critiqué en raison de doutes, dit-il, sur la thèse du livre.
Merci Anaïs Feuga. Le Zoom dans 3 minutes. Aujourd'hui, des paroles d'exilés birmans réfugiés en France.